Mythique Père Philippe, 14 mars 1997, Saint-Jadard.
Qui l'opération qui implique une certaine fécondité de l'esprit. Vous voyez, c'est la dernière qu'on étudie normalement. Et d'une certaine manière, alors là, ce serait intéressant, au point de vue critique, de souligner ça. C'est l'opération qui nous montre la fécondité de l'intelligence. L'intelligence a sa fécondité propre, qui n'est pas la fécondité biologique. Alors, point d'interrogation, est-ce que ce n'est pas cela qui est à l'origine de tout l'idéalisme? On fait de la troisième opération l'opération source de toute notre vie intellectuelle. Mais dans une vision réaliste, ce n'est pas la fécondité de l'intelligence qui est le plus important. Puisque l'intelligence n'est pas faite pour avoir des petits-enfants. L'intelligence est faite pour connaître la réalité existante. Or, l'intelligence a sa fécondité. Elle a deux fécondités, l'intelligence. Une fécondité de fabrication sur le monde physique. Je suis capable de transformer le monde physique. C'est une fécondité. Et l'intelligence a sa fécondité intérieure, c'est qu'elle est capable de transformer ce qu'elle connaît. Et de voir la fécondité propre de son intentionnalité. Je crois qu'à ce point de vue-là, c'est particulièrement intéressant de faire la critique de la troisième opération, parce que c'est la critique de tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau intellectuel. Partout, on enseigne la vitalité de l'intelligence et sa fécondité. On enseigne que cela. On n'enseigne plus du tout la capacité contemplative de l'intelligence. Nulle part. Je crois que ce qui a été enseigné en philosophie grecque, la contemplation, la théoria intellectuelle, donc la contemplation. Et c'est bon de temps en temps de mettre un mot grec parce que ça fait plus savant, n'est-ce pas ? Alors ça donne le caractère, ça. La théoria. Les Grecs mettaient en pleine lumière. Elle a été comme supplantée, comprenez bien, par la théoria théologique surnaturelle. Le passage de la grande attente du Messie dans le peuple juif. Ce n'est pas la théoria, la contemplation qui domine dans la première alliance. Le désir, la soif plutôt à l'attitude religieuse de l'attente du Messie. Mais autrement dit, réfléchissez sur ce problème, l'attente du Messie. Est-ce que l'attente du Messie est contemplative? Ou l'attente du Messie est-elle liturgique, avant tout, et en premier lieu, parce que c'est le désir, c'est l'espérance. Le Messie étant venu, ce qui domine, c'est la contemplation, c'est la présence. La contemplation implique la présence. Quand il n'y a pas évidence, il peut y avoir présence. Et la présence suffit à la contemplation. Donc, le grand désir de l'Ancien Testament, l'attente du Messie, le Messie étant là, toute cette vitalité religieuse se transforme en contemplation. Il est présent. Mais l'attitude de Marthe et de Marie dans l'évangile de Béthanie a toujours été considérée par les pères de l'Église. Marthe, c'est l'Ancien Testament. Marie, c'est le Nouveau Testament. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Et ça, c'est vraiment Marie. Tandis que Marthe, il faut du mouvement. Il faut tout le temps tout renouveler. Là, on a tous connu des Marthes. Très dévouées. Follement dévouées. Mais pour ça, il fallait tout le temps tout renouveler. Tout le temps, bon. Je me souviens, le père Dio avait une sœur qui était une Marthe, fille de la charité de premier ordre. Elle embrassait tout. Dès qu'elle arrivait, le père Dio fuyait toute vitesse pour ne pas être dans cette espèce de froid. C'est très significatif, hein, le point de vue de la contemplation. Et le point de vue du désir. Le désir est dans l'ouragan. Ça emporte toutes les toitures. Et on voit, ça marche. C'est très très curieux. C'est intéressant, du reste, à voir ça. La contemplation s'est installée à partir de la présence de Jésus. Et d'une certaine manière, elle a supplanté la contemplation philosophique. Ça, c'est très vrai. Chez les pères de l'Église, c'est la contemplation chrétienne et non plus la contemplation philosophique. Il a fallu que Thomas d'Aquin reprenne qu'il y a une contemplation philosophique. La contemplation mystique, divine, chrétienne, étant tellement plus forte, elle a supplanté l'autre. Ça explique beaucoup de choses. Et alors, à partir de là, le point de vue philosophique n'est plus devenu que serviteur. La dignité de la philosophie a disparu si elle n'est plus contemplative. Elle est servante. Et ce qui fait comprendre comment l'aspect contemplatif qui ne peut pas être serviteur, qui est toute la dignité de l'intelligence, tend à disparaître. Être serviteur de la foi, c'est plus grand que d'avoir sa contemplation. Il faut être serviteur de la foi. essentiellement contemplative, puisqu'elle vit de la présence. Vous voyez, c'est pour faire comprendre comment la philosophie grecque a une dignité, sa contemplation, qui disparaît avec la venue du Messie, puisque à partir de là, la contemplation théologale chrétienne a supplanté la contemplation philosophique. Ça, c'est net. Et c'était très bien comme ça. Et ça devait être comme ça. Mais le jour où la contemplation chrétienne se laisse emporter par une philosophie qui n'est plus que savante, qui est dialectique, la contemplation chrétienne a elle-même disparu. Pas totalement, mais en grande partie. Parce que la théologie n'a plus défendu la contemplation. Il faut expliquer un peu, n'est-ce pas, ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Ce ne sont plus les théologiens qui défendent les contemplatifs. Les théologiens sont dialectiques. Et la dialectique est incapable de défendre la contemplation. Elle est dans le mouvement, tout le temps, et dans l'efficacité. Les théologiens défendent l'efficacité, en croyant que c'est ce qu'il y a de plus grand dans la vie chrétienne. Et oubliant que ce qu'il y a de premier dans la vie chrétienne, c'est la contemplation. C'est le drame aujourd'hui, au cœur de la théologie. Et c'est ce primat du service sur la contemplation. Parce que, psychologiquement, on sent davantage le point de vue de la générosité, le point de vue du don dans le service que dans la contemplation. Ça, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce qu'il existe ? Qu'il n'y a plus de contemplation, ni du côté philosophique, ni du côté chrétien. Je crois, en gros, c'est ce qui existe. D'où le Saint-Père réclamant un renouveau de la foi, de l'espérance et de la charité, qui réclame la contemplation. Et pour que cette contemplation puisse être proclamée, il faut une philosophie qui montre le primat de la contemplation sur l'efficacité. Ce qui n'existe plus dans cette philosophie qui, elle, s'est dégradée pour n'être plus que dialectique. Mais en très gros, c'est ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Et au fond, c'est la servante qui s'impose comme reine. La servante, c'est l'aspect du raisonnement qui est au service de la contemplation. La contemplation, la... Et la servante, c'est le raisonnement, c'est la troisième opération. La troisième opération de l'intelligence, qui est le raisonnement, c'est l'aspect service, qui est très grand si ce service est ordonné à la contemplation. Si ce service est voulu pour lui-même, en n'ayant qu'un seul désir, c'est que ce service soit de plus en plus efficace et de plus en plus rapide, ce que nous voyons aujourd'hui. L'intelligence elle-même se tue. On assiste au suicide de l'intelligence par l'exaltation de la troisième opération. Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez d'une manière critique. C'est un fait. Historiquement, c'est ce qu'on voit. Mais il faut le comprendre de l'intérieur. Parce que historiquement, on peut simplement le constater. Et puis c'est tout. Et puis on se laisse prendre au jeu. Tout ce qui est exalté aujourd'hui dans la philosophie est dialectique. Depuis le XIVe siècle. C'est vieux. Il faut remonter à l'origine pour comprendre que ce qui est de plus grand dans l'intelligence, c'est la contemplation, qui, elle, est un au-delà de la dialectique, un au-delà de cette troisième opération, ce que nous verrons en dernier lieu. Dans la mesure où la critique peut défendre la contemplation. Et c'est pour que vous compreniez bien la situation particulière de la critique de cette troisième opération de l'intelligence. C'est, je crois, ce qui est capital pour nous à bien comprendre. Le renouveau de la scolastique, c'est d'essayer de comprendre ça. Parce que la scolastique est elle-même à glisser et s'est laissée emporter par ce primat de l'efficacité. Car c'est sûr que la troisième opération, c'est l'efficacité de l'intelligence. C'est la fécondité et l'efficacité. C'est une fécondité qui, de fait, n'est plus qu'une efficacité. Alors, comprenons le sens de cette troisième opération. Cette troisième opération, c'est le mode rationnel de notre intelligence. Cette troisième opération existe parce qu'il y a abstraction. Si mon intelligence était uniquement le miroir de la réalité, il n'y aurait pas besoin de cette troisième opération. Mais cette troisième opération existe à cause de l'abstraction. L'abstraction fait que mon intelligence n'est pas le miroir de la réalité. Mon intelligence, en connaissant, modifie la réalité. Ce n'est plus un beefsteak que je prends, c'est de la viande hachée. Oui, bien. La dialectique, c'est la viande hachée. C'est plus le beefsteak. C'est la dialectique. C'est l'intelligence qui transforme tout. J'ai le droit de prendre des exemples biologiques quand il s'agit de l'intelligence, puisque c'est la vie. Alors, la vie a comme mode particulier, quand il s'agit de l'intelligence humaine, d'être une intelligence qui raisonne. La raison raisonne. C'est sa démarche normale et la plus naturelle. Vous ne direz pas la raison naturellement contemple. Non. C'est l'intelligence qui contemple. Ce n'est pas ce mode rationnel. Ce mode rationnel de mon intelligence raisonne. Je raisonne à partir de ce qui est mon bien, vital, vital. Mon bien, j'ai appréhendé, j'ai jugé, ça je le possède dedans moi, et à partir de là, je suis capable de raisonner. De raisonner pourquoi ? Pour avancer, pour marcher, pour aller de l'avant. Et la troisième opération de l'intelligence résonne. Elle résonne de diverses manières. Et c'est cela qui serait intéressant de bien saisir. Les différentes démarches de mon intelligence qui résonne. Elle résonne. C'est-à-dire qu'elle est dans un devenir. La troisième opération de l'intelligence étudie le devenir de l'intelligence. Le devenir de l'intelligence, c'est la marche de l'intelligence qui, dans l'immanence de ce devenir, commence par mettre les unes à côté des autres, les diverses propositions. Je considère dans les diverses propositions, dans l'analyse de la diversité de ces propositions, je considère que certaines de mes propositions, mais la proposition c'est « j'ai soif ». Pierre est intelligent. Ce sont les propositions de l'intelligence. Que l'intelligence a formé, parce que vous n'avez jamais rencontré, j'ai soif. Et vous l'avez vécu. Ça n'existe que dans l'intelligence, j'ai soif. Et c'est pour ça que quelqu'un qui vous dit j'ai soif, et pense à autre chose. Et c'est toute la 16. Vous avez un creux d'estomac à midi et on mangeait une heure. Donc pendant une heure, vous vivez de ce creux d'estomac. J'ai faim, j'ai faim. Vous arrêtez de penser, j'ai faim, j'ai faim. Pourquoi ce repas à une heure ? Ça aurait été tellement mieux de mettre à midi. Alors on s'y avait habitué. Les vieux moines ne mangent qu'à une heure. Mais les jeunes sont habitués à manger midi. Entre midi et une heure, ils meurent de faim. Mais cette faim, c'est purement imaginatif. C'est purement imaginatif. Ils penseraient à autre chose. Ils n'auraient pas faim. Et c'est vrai. Et vous pensez à autre chose, à plus faim. Mais dès que vous sentez l'odeur de la cuisine, ça vous donne faim. Et vous commencez à avoir faim. Oui, alors, le devenir de la vie de l'intelligence, c'est le raisonnement. Et je peux réfléchir sur ce raisonnement. Ce raisonnement, il s'opère dans ma vie intellectuelle. Parce que dans ma vie intellectuelle, je me suis nourri, assimilé, diverses réalités que j'exprime de manière très simple, par des propositions. J'ai soif. Pierre est intelligent. Pierre marche. C'est mon intelligence qui possède ce qu'elle connaît. Toutes les réalités connues, elle les possède. Elle peut être attentive à ses possessions et voir si de ses possessions, je ne vais pas à commencer quelque chose de nouveau. Le devenir, c'est la conquête. Toute conquête se fait dans un devenir. Le devenir, c'est la bataille. Le devenir, c'est aussi ou une bataille victorieuse, une défaite. Ce devenir, c'est ou une montée ou une descente. C'est ça qu'il faut comprendre. Troisième opération d'esprit implique un devenir. Pourquoi ? Parce que la troisième opération d'esprit s'occupe de ma manière d'être intelligent. Or, je suis une intelligence très inférieure. Parce que mon intelligence a besoin des sensations. Elle a besoin de toute ma vie sensible. Et elle n'avance que grâce à ma vie sensible. Autrement, elle n'avancerait pas. Et ma vie sensible est liée à ma vie végétative. Et donc, mon intelligence est liée à mon estomac. C'est très gênant, hein, c'est comme ça. Je n'ai pas une intelligence pure. Si je meurs de faim, c'est très difficile pour moi de raisonner. Si je meurs de faim, c'est très difficile pour moi de penser. C'est triste, hein, de voir que la bête l'emporte sur l'esprit. Parce que la bête peut aboyer très fort. Et quand elle aboie très fort, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Donne-moi à manger, donne-moi à boire. Et autant que possible, quelque chose de bon. J'ai faim, j'ai faim. Alors quand vous avez ce cri-là tout le temps, vous aimez mieux vous retourner vers la vie végétative et dire oui, oui, je vais te satisfaire. Parce que j'aime pas t'entendre aboyer tout le temps. C'est comme si je ne dormais pas, j'aurais envie de dormir toute la journée. Et ce besoin de sommeil m'empêcherait de réfléchir. C'est curieux, hein? Chacun d'entre nous, si nous faisons un effort de ne pas manger, un effort de ne pas dormir, on est accablé par ça. On n'arrive plus à penser. On n'arrive plus à dépasser ce cri. Il y a une dépendance radicale de mon intelligence, de ma pensée, à l'égard des sensations, à l'égard même de la nourriture. J'ai cette dépendance radicale. Cette dépendance radicale me montre que mon intelligence n'est pas premièrement contemplative. Cette dépendance radicale me montre que mon intelligence est dépendante de mon corps, de mes sensations, et qu'elle a quelque chose à dire. Mes sensations, mon corps. Je ne peux pas m'abstraire de ça. Je suis obligé d'en tenir compte. Ma vie intellectuelle, dans son exercice, est lié à toute ma vie sensible. J'aimerais bien qu'elle en soit complètement libérée, mais elle ne peut pas. Je peux m'en libérer partiellement, mais pas totalement. Alors, quelle est la dépendance de mon intelligence par rapport à cette vie végétative? Je le vois premièrement dans l'abstraction. Et nous avons déjà vu ça, ce problème de l'abstraction. Nous avons vu qu'il y avait deux abstractions, une fallait pas oublier. La première, dont le fruit est l'universel. La seconde, dont le fruit est le lien qui existe entre le nom et l'adjectif. La proposition. Et tout dépend de la première abstraction universelle. Et j'ai vu que l'universel est ou un universel univoque ou un universel analogique. Et tout cela, c'est en moi. Et tout cela, je l'ordonne en moi. Pour comprendre ce que représente cette troisième opération, qui est le mouvement. Une forme de mouvement descendant, une forme de mouvement ascendant. Je peux ou monter ou descendre, ou rester toujours au même niveau, sans les dimensions directes du mouvement. Alors, je peux regarder en premier lieu le mouvement le plus facile à comprendre. Le mouvement le plus facile à comprendre, c'est la descente. Parce que on peut descendre en roulant comme un vieux tonneau. Quand vous laissez un tonneau en haut, il descend. Et quelquefois, il y a des gens qui résonnent comme des vieux tonneaux. Et ils descendent. Et ça va tout seul. C'est très curieux, ça. Hein, mais c'est quand même très, très important de voir que le devenir est premièrement la descente. Mouvement démonstratif. Je descends. Je pars de vérités universelles pour arriver à des vérités singulières. Je pars de vérités universelles pour demeurer dans l'universel. Et il y a quelqu'un qui a découvert les lois du raisonnement déductif. Parce que ce mouvement, il va vers le singulier, il va vers le raisonnement déductif descendant. Syllogisme. Dans le syllogisme, mon intelligence part de propositions universelles pour arriver à une application concrète. Tout homme est intelligent. Or, Pierre est un homme. Donc, il est intelligent. Un raisonnement classique, bête. Vous affirmez, à partir de quelque chose que vous possédez, tout homme est intelligent. Je prends la nature de l'homme, qui implique l'intelligence. C'est un bien que je possède. J'ai découvert ce que c'était que la nature de l'homme en réfléchissant à partir d'une quantité d'expériences. J'arrivais à découvrir la nature. La nature de l'homme implique l'esprit. Et donc, tout homme est intelligent. S'il n'a pas cette intelligence, il lui manque quelque chose d'essentiel. Comme homme. Alors que la vache ne lui manque rien, même si elle n'est pas intelligente. Parce que la vache, dans sa nature, n'implique pas l'intelligence. Vous voyez, tout ce que je possède comme connaissance avant de me mettre à raisonner. J'ai acquis tout ça par l'appréhension et le jugement. J'ai appris ce que représentaient les catégories. Les catégories, c'est les propositions. Catégorie, attribuer. Et j'ai mis ces affirmations les unes avec les autres. Des affirmations universelles, des affirmations singulières. Pierre est un homme. Je mets en troisième lieu. Donc, est intelligent. Devant ça, vous n'avez rien à dire. Hein, vous n'avez qu'à accepter que Pierre est intelligent. Bien que de fait, c'est pas toujours ce qui se manifeste. Être intelligent. Mais comme chose très curieuse hein, et très simple, l'intelligence se sert de propositions universelles pour mieux connaître l'individu. Et elle descend. Elle parle, tout homme est intelligent pour arriver à le raisonnement progresse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je progresse quand je prends ce raisonnement déductif? Non. L'intelligence ne progresse pas. Mon intelligence se sert de tout ce qu'elle possède et elle l'ordonne. C'est donc une opération qui ordonne ce que je possède. Pour y mettre plus de lumière, plus de clarté. Et quand je raisonne de cette manière, qu'est-ce que je fais? Ah, ça, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que je fais quand je raisonne de cette manière? Le raisonnement le plus bête qui soit. Ou si vous voulez, le plus intelligent qui soit. Tout homme est intelligent. Ce raisonnement, vous l'avez comment? Dès que vous analysez la nature de l'homme. Je vois comment dans la nature humaine est impliqué l'esprit. Ça, ce n'est pas le raisonnement. C'est antérieur au raisonnement. Tout ce qui est impliqué dans la signification de la nature humaine. Je m'en sers en vue de comprendre cet individu homme. Cet individu Pierre, je veux dire, je sais qu'il est un homme, mais quand je regarde Pierre, je ne vois pas toujours son intelligence. C'est un fait. Quand il dort, je ne vois pas son intelligence. Et je dis, attention, Pierre est un homme. Donc, tout ce que Pierre, tout ce que homme possède, Pierre l'a, puisque la nature humaine. Donc, je peux dire, tout homme est intelligent. Or, Pierre est un homme, donc Pierre est intelligent. Oui, qu'est-ce que représente cette opération? Une mise en ordre matériel nouveau et une mise en ordre. J'exploite mon capital intellectuel. Je l'exploite, je l'ordonne. Cet ordre, où est-ce qu'il existe? Il existe dans mon intelligence. C'est mon intelligence qui l'ordonne. Et mon intelligence la saisit du réel. La saisit du réel. Ce qu'est l'homme, ce qu'est Pierre. Et vu que Pierre est intelligent. Et je raisonne. Vous voyez, la petite industrie. Je mets en ordre mon acquis. Je mets en ordre mon acquis. J'ai réfléchi sur l'homme, sur la nature humaine, sur les qualités de la nature humaine, sur les différents attributs de la nature humaine. Ce qui me permet que dès que je vois Pierre et que j'ai découvert qu'il était un homme, je peux lui attribuer toutes les qualités de l'homme. Alors ça, c'est un effort de pensée. J'applique à homme, à Pierre, je veux dire, que je connais, en sachant qu'il est un homme, tout ce que l'homme possède. J'attribue tout de suite. Et que ce raisonnement est une mise en ordre de tout ce que je possède. Ce n'est pas une véritable fécondité de l'intelligence. C'est plutôt une mise en ordre qu'une fécondité. Le raisonnement déductif, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, raisonnement déductif qui consiste à partir d'une nature donnée. Je reconnais que tel individu fait partie de cette famille et donc que cet individu a en lui tout ce que j'ai reconnu dans la nature, dans sa nature. Mais ce raisonnement présuppose la différence entre l'individu et l'universel. L'individu est source de l'universel, et l'universel, j'ai cueilli. Me permet de joindre les deux. Cet individu qui applique telle nature possède donc toutes les qualités que j'ai reconnues à cette nature. Vous voyez, troisième raisonnement est un raisonnement qui met en ordre tout l'acquis que j'ai. Ce n'est pas du tout un raisonnement productif. Mise en ordre. J'ai besoin de mettre les choses en ordre. Et cet ordre est présupposé acquis par la saisie de la première opération et de la seconde opération de l'intelligence. C'est-à-dire l'appréhension et le jugement. Et cette troisième opération, c'est le mouvement à l'intérieur de ce que j'ai acquis, qui est une mise en ordre. Une mise en ordre de tout ce que je connais comme universel. Une mise en ordre des individus que j'ai expérimentés, étant de tel ou tel caractère. C'est vraiment une mise en ordre. Je veux de la clarté. Vous savez, quand vous avez fourré des tas de choses dans un tiroir, De temps en temps, il est bon de faire qu'on prend le tiroir, puis on le renverse, et on met de l'or dans le tiroir. Mon intelligence est une intelligence curieuse qui prend son bien partout. Et puis, à un moment donné, elle a besoin de mettre de l'ordre. Le raisonnement déductif, c'est une mise en ordre. Alors, il serait intéressant de voir que ce raisonnement présuppose